c'est...
Non, c'est... Hey, c'est tu plate, hein?
OK, ben, plate. OK, je vous fais réentendre. J'étais capable de rentrer un bon quatre doigts dans mon... Bon, ben 88-971-1021, on se laisse là-dessus. J'essaierai de m'expliquer demain. À plus, les amis. 14h demain, Anthony Niacarini, Max Larouche. Bye, là. Calique.
La playlist parfaite pour épater la visite pendant tes pool parties sans te casser la tête cet été, c'est sur l'app Boulevard. Faire une bombe dans piscine sur The Middle n'aura jamais été aussi épique.
102-1.
La meilleure équipe parlée à Québec est à Boulevard 102.
Salut Québec, salut toute la gang.
102-1.
Salut, c'est Marceau,
Jeff Fortin
et Max Larouche,
Catherine Bachand, Anthony Niacarini
et Mathias Surcot.
Salut, c'est Denis Gravel,
Véronique Bergeron
et Audrey Pinchot.
Nous sommes
Boulevard 102-1. On vous accompagne tout l'été avec une programmation parlée en semaine et la meilleure musique de la business la fin de semaine.
Hey everybody, this is Billy Joe from Green Day.
Hello, I'm Kurt.
And we are Nirvana.
Hey, Quebec City.
This is Dom Howard from Muse.
I'm in Linkin Park and I like to rock.
Good evening, Ozzy.
Hello there.
L'incontournable pour l'été. Restez informés et rockés. Nous sommes Boulevard 102-1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Docteur en neurosciences, Joël Monzé est avec nous pour 60 minutes dans le podcast de Marceau le soir. Salut Joël!
Salut!
Merci d'être là. On a une multitude de sujets à aborder aujourd'hui. Mon premier, ce matin, ça se glisse bien dans un début de conversation. Je jasais avec le ministre québécois responsable des services sociaux, Lionel Carman, d'un investissement de l'argent qui a été transféré du fédéral au provincial. On parle de 70 millions de dollars qui va aider à la santé mentale. Et on cible par tous ces millions-là les jeunes entre 12 et 25 ans. Puis on parle d'un projet qui s'appelle Aéro verte que je ne connaissais pas. Joël, depuis le temps que tu regardes un peu ce qui se passe dans l'actualité, depuis le temps que tu parles de santé mentale, tu as eu la chance de rencontrer des ministres, travailler avec certains individus qui sont au gouvernement. Est-ce que tu as l'impression que tout l'argent qu'on envoie, qui provient du fédéral, du provincial, c'est pas important, mais est-ce que tu as l'impression que cet argent-là va bien aux bonnes personnes?
Je crois que on a une volonté au Québec de donner la chance à tout le monde, à tous les coureurs. On veut que les gens puissent avoir accès à un certain nombre de services, comme les aires ouvertes dont on parle pour l'instant. Le problème, c'est que la manière dont on le fait actuellement, c'est qu'on le fait par des structures administratives qui sont extrêmement lourdes. Parfois, ce sont des EOBNL qui sont tout aussi lourde pour pouvoir arriver à rendre un service à la population. Et le problème de cette charge administrative fait en sorte qu'il y a des gens qui ont le droit de vivre, qui vont travailler, qui vont contribuer,
ouais.
Mais ça vient en fait gréver énormément d'argent. Et l'autre chose aussi, c'est qu'à court terme, quand tu as par exemple ici, on a une annonce de 70 millions, je sais que le gouvernement a dépensé en 2024 environ 500 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir ces aires ouvertes-là. Tu as 100 millions donc pour l'ensemble de la province du Québec. Il y a des aires qui sont en train de se développer un peu tout partout. Mais comment est-ce que tu engages le monde si dans 5 ans, tu risques de perdre ton argent?
Ouais.
Donc, tu ne pourras plus subventionner le service. C'est qu'il y a parfois une perte de la vision de développement à long terme qu'une entreprise devrait avoir. Donc, est-ce qu'on doit nécessairement passer par de l'entreprise privée? Je ne sais pas. Mais le fait de passer par des administrations extrêmement lourdes qui voient à relativement court terme, ce n'est peut-être pas non plus nécessairement toujours la meilleure solution. Souvent, ceux qui vont trinquer sur le terrain, ce sont les gens qui sont sur le terrain, justement. Donc, oui, il y a les gens qui reçoivent le service et les bénéficiaires. Il y a des gens qui sont sur le terrain qui assument énormément de choses, mais toute la strate de hiérarchique d'administration qui est en haut, ben, il grève énormément de budget, ce qui fait que je doute que l'entièreté de la somme va vraiment aider les gens sur le terrain. La différence avec les aires ouvertes,
ouais,
c'est qu'on change la dynamique. C'est que plutôt que ce soit l'administration qui détermine qu'est-ce qu'on veut, ce sont les jeunes qui sont mis dans des formes de conseils d'administration où ils disent « voilà ce dont on a besoin, voilà comment on aimerait que vous nous aidiez ». Et à ce moment-là, au lieu d'avoir l'organisation à travers les strates, à travers les strates administratives, l'argent, j'espère, va beaucoup plus localement, et c'est là que localement, ils vont pouvoir engager du monde pour pouvoir les aider sur le terrain.
En 2020, j'ai confronté Lionel Carman ce matin, qui est ministre québécois responsable des services sociaux. En 2020, assisté de Geneviève Guilbeault, qui était à l'époque vice-première ministre du Québec, suite à la tragédie de l'Halloween, on avait annoncé 100 millions de dollars, Joël, pour aider à la santé mentale. On s'était rendu compte que pendant un certain temps, on avait laissé de côté un peu la santé mentale des Québécois. Donc là, on est arrivé en grande pompe et on dit c'est 100 millions de dollars qu'on met sur la santé mentale. Puis en discutant avec M. Carman ce matin, il m'a dit « Oui, mais on a quand même réduit de moitié les listes d'attente pour avoir accès à un psychologue au public. » Mais quand la liste d'attente était de 6 mois, Joël, il reste toujours bien 3 mois là, avant de rencontrer un psychologue, alors que c'est là que ça va pas. Combien on perd de gens là, durant ce 3 mois-là qu'on aurait peut-être réussi à sauver si jamais ces gens-là avaient rencontré un psychologue?
Mais là, je te dirais qu'il se pourrait que l'argent qui est investi dans le 100 millions de dollars ait pu être momentanément investi dans la prévention. Dans le sens que, par exemple, ta présence que tu as avec tes enfants, la qualité de présence, la douceur, la guidance que tu vas donner à tes jeunes quand ils font des gaffes ou qu'ils font des bons coups, c'est ce qu'on va appeler de la prévention pour éviter qu'ils ne fassent des gaffes plus tard quand ils seront adolescents. Donc, on peut aussi investir sur ce qu'on appelle les facteurs de protection de l'enfance. Donc, sur les déterminants de la santé. On sait que, par exemple, une famille qui rencontre beaucoup de problèmes d'argent va avoir probablement plus de risques d'avoir de la violence intrafamiliale. Ça ne veut pas dire que c'est automatique, mais il y a plus de risques pareils. C'est pour ça qu'on va voir, par exemple, chez certaines populations immigrées qui ont des emplois beaucoup plus précaires, un peu plus de violence dans ces familles-là ou autour de ces familles-là de cette manière-là. Donc, si l'argent, elle est mis à la fois sur on va offrir des services d'aide dans l'institution publique, les hôpitaux ou autre chose en termes de psychologues, ça c'est le curatif. Mais peut-être que l'argent a été mis et a été placé d'un point de vue préventif. Et là, on ne verra peut-être pas nécessairement le résultat de manière directe. C'est d'ailleurs un des gros problèmes que l'on a quand on parle des habitudes de vie, c'est que c'est beaucoup plus difficile de mesurer l'impact d'une habitude de vie qui est bonne ou moins bonne sur 5, 10 ou 15 ans que donner un médicament à une personne parce qu'elle n'a pas fait assez d'activité physique ou parce qu'elle traverse un épisode de dépression. D'accord? Donc, ça devient à ce moment-là de voir... Je pense que Lionel Carman avait lancé le projet Épanouir. Il a aussi lancé le projet Équipe. Ce sont deux projets, en fait, qui permettent de venir travailler beaucoup sur les facteurs de protection à la fois dans les institutions publiques et dans les communautés, à travers les OBNL, les écoles, le CLSC et ainsi de suite. Et j'espère que l'un dans l'autre, en fait, on va aller mieux. Cela dit, une chose qui, moi, m'inquiète, Yannick, c'est que quand tu regardes le taux de psychologues et psychothérapeutes à l'intérieur du Canada, le Québec a 50% de la masse salariale des thérapeutes en santé mentale.
Oh.
50%, nous représentons un poids démographique de 22%. La société québécoise ne va pas bien. Et ça ne peut pas être uniquement le gouvernement qui doit être responsable de ça. Nous n'allons pas bien comme société. Il y a quelque chose à faire avec nos jeunes. Il y a quelque chose à faire avec nos moins jeunes, parce que je vais parler des parents, je vais parler des grands-parents, je vais parler des personnes qui sont en fin de vie éventuellement. C'est que notre manière de concevoir la vie ou de vivre actuellement au Québec, eh bien, fait en sorte qu'on a des facteurs de risque de développer des problèmes de santé mentale. Donc, tu auras beau mettre des psychologues et des psychologues et des psychologues tant que tu voudras à l'intérieur d'un système, dans une école, dans un CLSC, dans un hôpital ou ailleurs, si on ne travaille pas sur les racines même du fait que la société québécoise ne va pas bien, ben, j'ai envie de te dire, on lance de l'argent par la fenêtre.
OK. Je trouve ça intéressant. Tu vois, ce matin, on parlait justement de l'aide psychologique avec Lionel Carman. Et lui, il était persuadé que tout cet argent-là servait à bon escient. Moi, de mon côté, j'ai l'impression que l'argent ne se rend pas au bon endroit. Mais ce qu'il m'a mentionné aussi, M. Carman, c'est que la pandémie avait magané le monde au Québec. Est-ce que... De ce que tu vois, toi, à la grandeur du Canada, est-ce que la pandémie a frappé plus fort au Québec? Est-ce qu'au niveau de la santé mentale, ça a été plus fort au Québec, les épisodes de santé mentale qui, ça allait plus ou moins bien?
Mais tu sais, moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que j'ai travaillé beaucoup avec Lionel pendant la pandémie, avec Jean-François Roberge aussi, qui était à l'éducation, pour essayer de minimiser l'impact des mesures sanitaires sur la santé mentale de nos jeunes, qu'on en tienne compte. Mais on était dans une situation où si on arrête de faire peur aux gens, les gens ne respecteront pas les mesures sanitaires. Donc le gouvernement a pris des choix, a fait des choix qui n'étaient pas nécessairement dans la volonté des experts consultés par Lionel ou Jean-François, mais qui fait en sorte qu'on a monté les gens les uns contre les autres. On a détruit les relations sociales à l'intérieur d'une famille. On a utilisé une certaine forme de violence intrafamiliale pour forcer la vaccination parfois, en dramatisant parfois à l'extrême le risque de croiser quelqu'un qui ne serait pas vacciné. Okay? Je ne suis pas en train de dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de se faire vacciner. Les gens font ce qu'ils pensent être juste pour eux. Mais à partir du moment où, les leitmotifs que l'on avait dans la publicité, dans les médias, dans le passeport vaccinal et ainsi de suite, ça a créé en fait une tension entre les gens. Ça a détruit des dizaines de familles. Si tu savais le nombre de couples qui n'étaient pas d'accord sur la décision et que l'un a peut-être accepté la décision de l'autre, souvent en faveur éventuellement de la vaccination, mais ce sont des couples qui ont explosé. Mais les enfants qui sont là-dedans, les adolescents qui sont là-dedans, qui doivent essayer de se faire leur propre idée par rapport à tout ça, ben veut, veut pas, ça va les affecter. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a encore la difficulté à gérer les conséquences du référendum de 95 et qu'on a peur d'oser faire un troisième référendum, pas parce qu'on a peur du résultat, parce qu'on a peur des chicanes intrafamiliales. Donc, c'est là qu'on voit que notre société, il faut qu'on reconstruise les liens, il faut qu'on reconstruise la solidarité. Ouais. Il faut qu'on accepte que même si on n'a pas nécessairement la même perception de la vie, de la santé, de la philosophie ou même politique, on s'en va vers les élections dans pas longtemps, on va avoir plein d'occasions de se chicaner à la table familiale. Donc, accepter qu'on a des avis différents et que c'est parce qu'on est tous différents qu'on n'est pas une société de fourmis, on a une individualité et c'est ce qui fait la beauté du Québec. C'est une des choses que moi, j'ai en admiration par rapport au Québec depuis que je suis arrivé en 92, c'est le nombre d'artistes. C'est une concentration d'artistes au Québec, d'accord, qu'on n'a pas en Europe. Donc, quelque part, on a une particularité, mais si on a des artistes qui arrivent à émerger, c'est parce que, justement, il y a une individualité dans la manière d'exprimer qui on est. Donc, travaillons là-dessus, acceptons qu'on construise ensemble un certain nombre de paramètres de base, hein, des éléments de base en termes de solidarité, de respect, d'entraide d'équité entre les personnes. Ce sont des valeurs de base, des valeurs universelles, mais au-delà de ça, que chacun puisse être qui il est, comme il est, dans le respect de l'un et de l'autre. Donc, si on peut arriver à faire ça, ben, ça va déjà aller mieux. Une autre chose aussi qui met en mal les jeunes actuellement, c'est toutes les théories du genre. Tu sais, un jeune, quand il se développe, il se pose des millions de questions par rapport à son orientation sexuelle, par rapport à qui il est, qui il n'est pas, ce qui est un homme, ce qui est une femme, et ce qui est non-genré. Mais si tu as des adultes qui viennent interférer et plaquer leur propre fantasme sur des adolescents qui se posent des questions, ben veut, veut pas, ça peut pas marcher parce que c'est les problèmes d'adultes, c'est pas les problèmes d'ados.
Ouais, exact.
Donc, il faut accompagner l'ado sans imposer nos visions à nous d'adultes. Et je ne doute pas que des personnes qui ont choisi, par exemple, une transformation de leur corps à 40 ans ne regrettent pas de l'avoir faite plus tôt. Mais peut-être que s'ils l'avaient faite à 16 ans, ils l'auraient regretté beaucoup plus parce qu'ils n'avaient pas maturé suffisamment cette transformation mentale avant d'avoir une transformation du corps.
Franchement intéressant. Docteur Joël Monzé, docteur en neurosciences, ce soir, c'est un sujet qui me passionne, l'intelligence artificielle. On se pose la question, on veut savoir s'il y a des enjeux avec l'intelligence artificielle sur les capacités cognitives. Revenons un peu à la pandémie. J'ai été faire du bénévolat, moi, dans les CHSLD et, entre autres, dans le secteur de Montréal et Thetford Mines. Je passais énormément de temps dans ces endroits-là. Et Joël, on en a déjà parlé, toi et moi. Je rencontrais des individus au jour 1 et quelques semaines plus tard, je voyais qu'au niveau cognitif, c'était encore plus lent que c'était lorsque je les avais rencontrés une première fois. J'ai vu leur skills, excuse-moi l'expression anglaise, mais cognitives, diminuer en un court laps de temps. Puis c'est en raison du fait qu'il n'y avait plus accès à personne. Les gens n'avaient plus moyen de se voisiner, de se côtoyer. Ils étaient isolés. Mais l'intelligence artificielle ne va pas un peu mettre le bordel dans nos capacités cognitives, Joël? On se force
en fait,
plus?
Ça va toujours dépendre de l'outil. J'aime beaucoup faire une comparaison avec la voiture. On sait que l'apparition de la voiture fait en sorte qu'on marche beaucoup moins que nos arrière-grands-parents.
Il y en a qui vont au dépanneur. Il y en a qui vont au dépanneur à 2 minutes de marche en voiture.
Exactement, c'est ça. Donc, ce n'est pas le problème de la voiture, c'est le fait qu'on ne marche plus. Okay? Donc, ça veut dire que si on veut garder une bonne santé physique, on a intérêt à marcher. Ça fait partie des bonnes habitudes de vie, d'ailleurs, qui vont protéger la santé mentale. Mais ça va être la même chose, en fait, avec l'utilisation de tous nos outils. On sait, par exemple, que le GPS, plus on utilise le GPS dans nos voitures, moins on est capable de s'orienter sans GPS. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve dans une ville, même si on connaît la ville depuis longtemps, on ne sait plus où sont les choses. Parce qu'on a tellement l'habitude de regarder l'écran qui nous dit par où aller, par où passer. C'est certain qu'on peut éviter des travaux, on peut éviter un ralentissement ou un blocage. Tu sais, le GPS nous apporte des bonnes choses. Mais en même temps, ça fait en sorte qu'il y a des neurones qui deviennent paresseux dans le cortex pariétal. Et petit à petit, on perd notre capacité d'orientation 3D. Donc, c'est certain que l'IA, si on l'utilise pas de la bonne manière, malheureusement, ou qu'on se fie trop sur l'IA, on risque peut-être, en fait, de perdre des aptitudes. Et il y a d'ailleurs une recherche qui a été publiée il y a quelques jours, où on démontrait, par exemple, que des médecins, Dieu sait s'ils ont un bon cerveau bien fait pour avoir réussi leurs études. Donc, on leur demande, par exemple, on demande à des radiologues de repérer, en fait, des lieux où il y a des tumeurs, d'accord, dans le cerveau. Et généralement, ils repèrent environ 28% de leur capacité à les distinguer dans le cerveau, dans les images qu'on leur montre. Okay? Et en fait, au bout de quelques semaines, après avoir utilisé l'IA qui vient les aider en fait, à mieux diagnostiquer la présence ou non de ces fameuses tumeurs, on se rend compte qu'ils ont perdu 25% de leur capacité d'identification de la tumeur. Donc, ça veut dire que moins on est habitué à faire quelque chose et plus ça devient compliqué de pouvoir faire cette chose-là. Ça veut dire qu'on peut avoir un excellent dessinateur, mettons qu'il y a quelqu'un qui fait des caricatures dans le journal. Maintenant, donc il l'a fait pendant des années à la mitaine, il utilise un logiciel qui lui permet d'aller beaucoup plus vite, d'accord, et il le fait avec l'ordinateur. Ça se pourrait que s'il doit revenir à dessiner à la main, il ait perdu une bonne partie de ses aptitudes en motricité fine qui lui permettait auparavant d'avoir un grand talent.
L'AI nous rend stupides, oui ou non? Parce que je vais t'avouer quelque chose que j'ai ajouté à ma routine. Avant, j'avais aucun problème à taper ce que je recherchais sur Google ou encore sur ChatGPT. Maintenant, quand je recherche un acteur, exemple, je me donne quand même un bon 5 minutes là, pour « OK, qu'est-ce qu'il a fait cet acteur-là? OK, ouais, il a fait ce film-là. Comment il s'appelle déjà? » J'intègre à ma routine que je dois chercher en premier. Et en dernier recours, Joël, je m'en vais sur Google. Je vais sur Google ou encore je vais sur ChatGPT. Parce que sinon, c'est trop facile.
Oui. Et en fait, ce que tu fais, c'est ce qu'on devrait faire. Dans le sens qu'on devrait d'abord essayer de se poser des questions, de réfléchir, essayer de ramener notre connaissance, quitte à ce qu'elle soit incomplète. D'accord? C'est-à-dire qu'on va mobiliser notre capacité de remémoration de l'information qu'on connaît, avant éventuellement d'aller vérifier sur Internet, quelle que soit la source, d'accord, si notre information, elle est correcte ou elle est complète, ou on va venir éventuellement la compléter. Donc, c'est vraiment un élément qui est très important, parce que sinon, on perd un peu la capacité d'aller rechercher l'information qu'on a mémorisée quand on était plus jeune ou il y a peut-être 2 jours, d'accord, pour être capable de pouvoir la remettre. C'est dans des zones différentes à l'intérieur de notre cerveau. Si tu veux, la mémoire dure de notre cerveau est dans le temporal. On a besoin d'une structure qu'on appelle l'hippocampe qui est dans le cœur de notre cerveau, qui est un peu notre microprocesseur. On va avoir la mémoire vive qui est dans notre front. D'accord, en fait, juste derrière notre front. Et la mémoire, si tu veux, les connaissances que l'on a acquises depuis qu'on est né, depuis qu'on est allé à l'école, ou ce qu'on lit dans le journal, ou ce qu'on apprend éventuellement en suivant un documentaire, toutes ces connaissances-là, en fait, voyagent à l'intérieur de notre cerveau et sont engrammées dans la partie temporale, donc sur le côté de part et d'autre de notre cerveau. OK? Donc, pour être capable de les ramener au niveau du frontal, donc les travailler, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Dans un ordinateur, c'est la mémoire vive. Il faut être capable de faire le processing. Si je perds l'habitude de faire le processing, ben, veux pas, il y a un moment donné, les connexions neurologiques, ben, si elles servent à rien, elles vont simplement s'atrophier et puis disparaître. Donc, à partir de ce moment-là, on perd en fait l'aptitude à réfléchir.
Est-ce que pour la compréhension de texte, souvent quand je vois les articles qui sont assez étoffés, ben je demande à ChatGPT de me traduire un peu ce que le journaliste voulait expliquer. Synthétise-moi telle affaire. Est-ce que ça, si je fais ça régulièrement, nécessairement, je vais avoir ma capacité à être capable de synthétiser les choses?
Mais ça va dépendre comment tu vas utiliser, dans le sens qu'on est dans un monde où il faut aller de plus en plus vite. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, si tu demandes, en fait, à l'outil de pouvoir faire une partie de ton travail,
ouais,
dans un moment où tu n'as pas le temps de faire ce travail, okay, ou dans un secteur de connaissances que tu es un peu moins familier, ça va te faire gagner énormément de temps. Le problème, c'est est-ce que tu as les connaissances nécessaires pour pouvoir vérifier que ce que l'IA t'a donné, elle est juste ou pas? Et il ne faut pas croire, même des gens intelligents, il y a eu une recherche qui a démontré il y a quelques mois que des chercheurs se basaient sur l'IA pour identifier des articles scientifiques pour pouvoir ajouter ces articles dans leurs recherches. Et c'est des articles qui n'existaient pas.
Il y a des sources qui ont été ajoutées qui étaient inexistantes. Ça s'est vu en cours aussi, en cours criminel, où des juges, pour rendre leur verdict, ont utilisé ChatGPT ou un autre AI. Même chose pour ce qui est de la couronne puis de la défense. C'est rendu une plaie actuellement en cours.
Oui, puis ça montre en fait que les gens ne prennent plus le temps de réfléchir, parce que quelque part, je vais l'utiliser aussi. Moi, j'ai tendance à utiliser Gemini, parce que Gemini est collé en fait à Google Scholar, qui est en fait une forme de recension de tous les articles scientifiques qui existent dans le monde entier. D'accord? Puis j'utilise Google Scholar depuis que j'ai fait ma maîtrise en 93, donc c'est vraiment, ça fait très longtemps, c'est une bonne ressource, d'accord? Donc, à ce moment-là, je vais lui demander, je vais donc lui envoyer un prompt en disant, j'ai besoin de X articles qui parlent de tel thème en fonction de tel paramètre. Ça veut dire que la codification que je vais faire de mon prompt se base sur la connaissance scientifique que j'ai aujourd'hui. Donc, je vais gagner du temps. Mais une fois que Google me donne, Gemini me donne de l'information, il faut que j'aille la vérifier, il faut que j'aille lire l'article. Parce que c'est là que je risque de me tromper. Et quelque part, si le juge se sert, en fait, de ChatGPT pour aller chercher une loi, une jurisprudence qui pourrait avoir été proposée dans un tribunal ou dans un autre, sans aller vérifier que cette jurisprudence dit bel et bien ce que l'agent conversationnel lui a transmis de manière automatique, mais c'est là qu'il y a une erreur qui va se faire. Et donc, elle ne nous rend pas plus bêtes. C'est nous qui devenons paresseux. L'IA est un outil incroyable, d'accord? Maintenant, si je suis un juge, je ne vais pas me baser sur ChatGPT pour aller chercher éventuellement de l'information, parce que la probabilité que ChatGPT se trompe, c'est dans ChatGPT, tu as 45% à 46% de la matière qui vient de Reddit, et tu as 20% qui viennent de Wikipédia. Donc, tu as 65 à 70% de l'information qui est transmise par ChatGPT qui est potentiellement erronée. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Elle est potentiellement erronée parce qu'elle ne vient pas au départ de sources qui sont crédibles. Wikipédia est un outil, mais ce n'est pas la panacée. Reddit est un outil, mais ce n'est pas la panacée. Donc, si l'information que j'ai, je n'arrive pas à décoder pour voir qu'elle est mauvaise, elle me donne une fausse information, mais c'est là que je vais me planter, c'est là que je deviens idiot. Donc, il y a une nécessité de continuer. Et tantôt, quand on parlait de faire l'effort, de se souvenir de tel ou tel acteur, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, parce que malheureusement, il vient de décéder, okay, de faire cet effort-là, quel que soit le secteur dans lequel on est, c'est là qu'on devient à ce moment-là, malheureusement, de moins en moins intelligent et qu'on perd beaucoup de références et de connaissances précises.
Est-ce que tu as l'impression, on se porte en l'an 5000, donc on a rajouté quelques années, on est en l'an 5000. Si on regarde le graphique des cerveaux, est-ce que tu as l'impression qu'on va voir l'ère d'Internet arriver? Dans le graphique des cerveaux. Tu sais, au niveau de la mémoire, exemple, si ton grand-père avait une mémoire, ton père avait une mémoire, ça se peut que tu aies de la mémoire aussi, mais là, à un moment donné, tu sais, on ne connaît même plus le numéro de téléphone des gens qui nous entourent, alors que quand on était jeune, Joël, on pouvait retenir à peu près 25 numéros de téléphone sans problème. Aujourd'hui, tu me demandes le numéro de téléphone de mon ancienne conjointe, exemple. J'en ai aucune idée, Joël.
Mais en fait, ça va dépendre qu'est-ce que ton cerveau a fait de la place dont il dispose. Tu vois, moi, je viens d'engager quelqu'un dans mon entreprise qui a repris, en fait, plutôt d'avoir des sous-traitants pour gérer tous mes aspects numériques, j'ai maintenant quelqu'un qui est 100% du temps dédié à mes besoins numériques. OK? Donc, mes sites web, la programmation et toute une série de choses. C'est certain que ça m'a amené une décharge mentale. Je n'ai plus à me soucier de mettre des produits ou de faire ceci ou de faire cela. J'écris mon texte, c'est lui qui le met sur Internet. D'ainsi, je me suis déchargé. Mais mon cerveau, en même temps, pour l'instant, j'écris plein de livres. Tu sais, j'en ai sorti 3 au mois de mai dernier. Je vais en sortir probablement 4 ou 5 autres dans les 6 mois qui s'en viennent. Je suis dans une phase de production énorme. Donc, la décharge de l'information de gestion numérique, parce que j'ai un employé efficace, fait en sorte que je peux mettre mon cerveau sur autre chose. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a déchargé notre cerveau? Si on passe notre temps à regarder des informations en boucle sur la télévision, qu'on regarde des films cuculapraline, si on ne fait rien de notre belle intelligence, on va avoir des problèmes. Et quand tu demandais, est-ce que c'est dans les 5000 dernières années, est-ce qu'on voit un changement? Oui, on voit un changement. Il y a 2 choses importantes. La première, c'est que la partie la plus humaine de notre cerveau, c'est le cortex préfrontal qui est juste derrière notre front.
Ouais.
On remarque que depuis quelques générations, il gonfle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il prend de plus en plus de volume. À un tel point, c'est qu'il va pousser les autres lobes vers l'arrière du crâne, tellement il prend de la place. À un tel point, c'est qu'aujourd'hui, on sait que notre cerveau atteindrait son volume le maximal entre 40 et 45 ans et qu'il continue à être de plus en plus efficace, au moins jusqu'à 55-60 ans. OK? Donc, on voit en fait que le cortex préfrontal est de plus en plus efficace. Donc, l'intelligence, si tu veux, elle est de plus en plus présente. Mais Michel Desmurget a sorti un livre il y a 4-5 ans qui s'appelle « La fabrique du crétin digital », où on voit en fait que jusqu'à la génération Z, il y avait une augmentation de ce volume dans la partie préfrontale et que depuis que les outils numériques, surtout les réseaux sociaux et les jeux vidéo se sont hyper polarisés, au lieu de lire un roman le soir, je vais jouer à un jeu vidéo, au lieu de discuter avec mes amis et de refaire le monde sur le plan philosophique et d'avoir une belle bataille entre les gens de droite, de gauche ou de centre, d'accord, selon mes amis, eh bien, le fait de perdre ça, ça fait en sorte que le volume de mon cerveau, le volume du préfrontal est moins important chez les générations plus jeunes. C'est une moyenne, ça ne veut pas dire que tous les jeunes ont le même défi, d'accord, tu as des jeunes qui continuent en fait à lire ou à converser d'un point de vue politique, mais ça reste que tu vas avoir un volume moins. Donc, qu'est-ce que ça va faire à court et moyen terme? C'est qu'à court terme, ils ont plus de difficultés de réussir à l'école et vont avoir probablement plus de risques de développer de la maladie d'Alzheimer quand ils auront 50 ans, 60 ans et plus. Parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui semblerait arriver chez presque tout le monde, mais les symptômes n'apparaissent que chez les personnes qui ont de moins en moins utilisé leur cerveau, qui n'ont pas les bonnes habitudes de vie. Dans 95%, c'est un problème d'habitude de vie et pas un problème génétique. Donc, c'est certain qu'on risque peut-être éventuellement d'avoir des jeunes parfois peut-être un peu plus hypothéqués. Mais en même temps, le numérique n'est pas le seul problème parce que, quelque part, l'enseignement explicite qui est très facile à mesurer dans nos écoles, d'accord, parce que tu dis à l'élève quoi faire et quoi pas faire, donc il ne réfléchit plus s'il devient un technicien, mais ça aussi, ça fait en sorte que, plutôt de faire des essais et des erreurs, d'accord, et d'accepter l'échec, d'accepter de ne pas trouver la solution de suite qui oblige à utiliser les ressources du préfrontal, si on me dit d'appliquer bêtement une technique de résolution de problèmes ou une manière d'écrire un texte sans devoir réfléchir, mais les techniques qu'on utilise dans nos écoles rendent aussi nos élèves un peu plus stupides.
Est-ce que les nouvelles technologies, exemple qu'on a à l'intérieur de nos véhicules, tu sais, puis c'est dernièrement, j'avais cette discussion-là avec une amie, elle est plus capable de reculer son véhicule si elle n'a plus sa caméra de recul. Puis j'y ai expliqué, je dis, mais quand on était jeune, on n'avait pas de caméra de recul, puis on était capable de se stationner, mais maintenant, elle dépend de la technologie. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on va devenir un peu ce type de personne-là handicapée ou le moment où on ne l'aura pas, cette intelligence artificielle-là, on va être complètement perdu? Je sais que tu parlais d'un exemple de l'Institut Top Gun aux États-Unis qui testait l'efficacité des pilotes. À partir du moment où la technologie est embarquée pour l'aide au pilotage, les gars ne savaient plus vraiment quoi faire avec l'avion.
Oui, c'est ça. Mais en fait, je pense que si tu te souviens du début, en fait, du film Top Gun, la première génération, 86, d'accord, on dit que lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un avion américain qui tombait pour 10 avions ennemis qui tombaient. Okay. Donc les pilotes américains étaient très très solides. Et puis on a mis de plus en plus d'aide au pilotage dans la guerre de Corée et puis encore après dans la guerre du Vietnam, ce qui fait en fait que c'était tombé à 2 pilotes américains qui s'écrasaient pour 5 Vietnamiens qui s'écrasaient. Donc il y avait eu une perte énorme de la capacité de gérer en fait l'avion. Okay. Et donc l'école de Top Gun visait en fait à ramener l'intuitivité chez les pilotes. Donc, tenir compte de la manière dont l'avion agit et réagit en 3D, mais tenir compte surtout de comment mon corps me donne l'information et instinctivement, comment tirer au bon moment. D'accord? Donc, aller bien au-delà de la technologie. La technologie va toujours rester là, mais retrouver l'intuitivité du pilote est essentiel pour retrouver. Et à partir du moment où Top Gun, en fait, a été créé, ils ont retrouvé, en fait, un taux d'efficacité de leurs pilotes beaucoup plus élevé. Et c'est là que je reviens. Je ne pense pas qu'on va aller en arrière. L'IA, elle est là pour rester. C'est un outil qui est incroyable. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a des choses qui me font peur dans l'IA. On pourra en parler après si on a envie. Mais en bout de ligne, je trouve que ce sont des merveilleux outils qui font gagner du temps, qui vont peut-être faire en sorte qu'il y a certaines tâches qu'on n'aura plus à faire parce que ça va être beaucoup plus efficace. Mais ça nous demande d'apprivoiser l'outil pour être capable de l'utiliser de la bonne manière. Parce que je te prendrai un exemple qui est arrivé il y a une quinzaine d'années. Tu as la NASA qui a envoyé une sonde sur Mars. Et en fait, la fusée, elle arrive proche de Mars. Il lâche la sonde, puis la sonde, bam, elle s'écrase sur Mars. En fait, il y a deux équipes qui ont travaillé en parallèle. Il y en a une qui travaille en pied, l'autre qui travaille en mètre. Ah. Il n'y a personne qui a été capable de voir que leurs unités de mesure n'étaient pas les mêmes. Ce qui fait que quand il s'agissait de faire alunir sur Mars, la sonde, elle s'est écrasée parce que ça a été mal codifié. Tu vois, c'est là qu'on peut voir les problématiques de danger. Si quand je conduis ma voiture, je fais beaucoup trop attention, par exemple, j'ai sur ma voiture actuelle, ben, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est la première fois que je l'ai, tu as une petite lumière orange qui peut apparaître dans
l'angle mort. Ouais.
Okay? Donc comme ça, je réduis le risque d'avoir un problème d'angle mort. Mais je dois quand même tourner ma tête.
Mais les gens le font plus. Moi, je te confirme que les gens le font plus. Donc, à partir du moment où il y a un problème avec cette lumière-là, elle ne fonctionne pas, il y a une défaillance technique, ben, cette personne-là devient en danger puis risque d'être un danger pour les autres aussi.
Mm-hmm. Tout à fait. Puis une autre innovation que j'ai sur ma voiture, c'est que ça me demande toujours de vérifier à l'arrière si j'ai ou non un bébé. Parce qu'il y a un signal dans mon tableau de bord qui va s'allumer. Donc, ça voudrait dire que si j'ai un bébé, d'accord? Mon plus jeune a 16 ans et demi, donc ça ne risque pas d'arriver. Mais si, mettons le jour où je serai grand-père, mettons qu'il y a un problème technologique qui fait en sorte que cette petite lumière rouge ne s'affiche pas. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas regarder si je suis ou non avec mon bébé? Si je fais de la décharge cognitive continuellement parce que j'ai une charge mentale trop élevée, est-ce que je risque d'oublier que j'ai un enfant qui est en arrière de la voiture? C'est que parfois, quand on fait trop confiance à la technologie, on oublie notre capacité personnelle et notre responsabilité personnelle. Alors, c'est certain que oui, cette lumière rouge peut être utile, ça va peut-être empêcher certains drames d'un parent qui laisse son enfant à l'arrière de la voiture quand il va faire une course ou qu'il va travailler, mais en même temps, ça peut nous rendre paresseux, et c'est cet aspect-là qui devient problématique quand la technologie est beaucoup trop présente.
À l'école, est-ce que c'est une problématique, l'enseignement, quand on utilise l'intelligence artificielle? Est-ce que ça va donner quelque chose de particulier sur le marché du travail? Prenons l'exemple d'un technicien, d'un électricien. Lui, il a été formé à l'école. Il a été formé, en bonne et due forme, comme tout bon électricien. Mais là, les nouvelles façons d'enseigner sont un peu différentes. Avant, j'avais l'impression que les techniciens étaient un peu plus artisans. Donc, c'était des gens qui étaient débrouillards, que les parents leur avaient montré un peu les principes de la construction. Ça, c'est un peu d'électricité, ça, c'est un peu de plomberie. Puis là, la personne décidait, « Ah, ben moi, je vais devenir technicien. » Ce qui faisait qu'il était un technicien artisan. Là, maintenant, les techniciens qu'on a au Québec respectent le livre et uniquement le livre. Et si jamais ça sort de l'ordinaire, le réflexe de « Oh, par où je peux passer? Qu'est-ce que je dois faire? » Est-ce qu'il est moins présent?
Mais je pense que c'est que, tu sais, tantôt je te parlais de l'enseignement explicite que l'on a déjà à l'école primaire et secondaire. Je pense que c'est plus un problème d'enseignement explicite pour ce corps de métier-là. C'est-à-dire qu'en dehors de mon livre, je ne réfléchis plus. je fais ce que mon livre a besoin. Est-ce que je vais utiliser ChatGPT pour pouvoir me monter mon circuit interne à l'intérieur d'une maison que je suis en train de construire ou de je viens comme électricien dans la maison pour placer? Je ne pense pas que ChatGPT soit vraiment l'outil le plus intéressant à ce niveau-là parce qu'il n'est pas justement sur le terrain, ça va rester quelque chose de très théorique. Si de nouveau j'utilise un outil qui est en open source comme on peut avoir les versions gratuites, ben, le risque d'avoir des erreurs est énorme. C'est pour ça que j'ai intérêt à, comme électricien, comme artisan, j'ai intérêt en fait à utiliser justement tout mon art. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va devenir entrepreneur et quelqu'un qui va être simplement un technicien à qui on lui dit quoi faire. Mais si tu es un compagnon, tu vas vouloir avoir ta propre entreprise probablement. Là où ça change un peu, c'est ce qu'on appelle des IA génératives souveraines. Dans le sens que, par exemple, si j'étais programmeur en électronique ou en génie des systèmes, eh bien, je pourrais reprendre le code du bâtiment, travailler uniquement avec le code de bâtiment, créer en fait une IA qui ne tient compte que du code de bâtiment du Québec, d'accord, et l'offrir en outil. Ça, c'est ce qu'on appelle une IA souveraine, dans le sens que c'est imperméable aux informations extérieures. Ça ne travaille que sur les informations que je vais utiliser. On utilise ça de plus en plus pour des grands projets comme la construction de ponts, la construction d'immeubles à multiples étages, parce que ça simplifie le travail des architectes et des ingénieurs. On l'utilise en Formule 1. D'accord. Quand ton Michael Schumacher un peu dépassé, Verstappen est en train de courir, d'accord, mais veut pas. Il y a toute une série de capteurs qui sont sur sa voiture, okay, qui vont être des capteurs différents de la voiture de Lance Roll ou d'Alonso, et ils vont être transmis à l'usine en circuit fermé. Ils vont pouvoir faire des essais pendant la nuit, puis alors, le lendemain matin, Verstappen va avoir un meilleur temps parce qu'il a travaillé avec quelque chose qui lui est commun. Alors que Alonso et Stroll, qui sont dans la même équipe, les capteurs de leur voiture vont peut-être être comparer les deux pilotages, améliorer éventuellement l'un ou l'autre manière de pouvoir conduire ou de régler la voiture qui permettrait éventuellement de gagner quelques microsecondes autour. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des IA souveraines, c'est-à-dire qu'elles sont complètement enfermées. C'est l'avenir de l'IA. Je pense qu'actuellement, les IA sont en train de se développer gratuitement. Enfin non, ils ont des esclaves gratuits qui passent leur temps à les utiliser.
Oui.
Okay? Ce qui fait que ça les entraîne. À court terme, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça dépendra toujours de ce que l'entreprise fait ou ne fait pas avec l'information qu'il a. Moi, je me méfie beaucoup de ChatGPT. On en a déjà parlé dans un précédent podcast où ChatGPT va mimer des relations amoureuses avec les personnes qui utilisent ses services parce qu'il essaye de comprendre comment l'émotivité des êtres humains fonctionne. Le problème, c'est que c'est un être humain un peu fragile qui se fait dire mon amour, qui se fait donner l'impression qu'il est une personne à part entière comme dans une relation amoureuse, ça devient problématique parce qu'il y a une part de responsabilité que OpenAI ne veut pas malheureusement assumer, mais qu'il va probablement devoir assumer parce qu'il va y avoir des procès tôt ou tard et ces procès-là vont forcer en fait probablement un ajustement de la part de responsabilité. Mais je reviens avec ce que je disais, c'est qu'à terme, ces IA généralistes vont devoir s'enfermer et vont devoir retravailler les informations auxquelles ils donnent accès à leurs clients. Ça va devenir de plus en plus payant, ça va devenir donc de plus en plus cher, mais c'est probablement ce vers quoi on va s'en aller. Donc, l'électricien peut poser une question. Alors, si le code du bâtiment, mettons, je ne l'ai jamais lu, d'accord, je ne suis pas du tout dans ce domaine de professionnel, s'il fait 1500 pages, est-ce que j'ai le goût de fouiller dans les 1500 pages pour savoir qu'est-ce que je dois faire? Ou je peux utiliser, d'accord, une IA souveraine qui m'informe comment je dois construire un élément de la maison sur lequel j'ai un contrat, et là, je vais gagner du temps. Est-ce que je vais pouvoir faire plus de maisons ou je vais pouvoir passer plus de temps avec ma famille ou je vais pouvoir aller faire du sport pour pouvoir essayer de relâcher ma charge mentale et de me sentir mieux et de pouvoir être un conjoint extraordinaire auprès de ma famille après, tu sais? Donc, ça peut nous faire gagner du temps, mais ça ne remplacera pas la capacité de réflexion des gens. Sinon, on va aller de plus en plus vers des drames.
Joël Monzé, docteur en neurosciences. Est-ce que le QI moyen va continuer d'augmenter? Est-ce qu'il augmente, le QI moyen, depuis quelques années, ou ça va diminuer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Et est-ce que certains pays qui sont en voie de développement vont continuer, eux, à développer leur quotient intellectuel?
En fait, il faut savoir que le quotient intellectuel n'a rien à voir avec l'intelligence. Ah! C'est une mesure de la capacité d'adaptation d'un élève dans le système scolaire donné.
Mais voyons donc, j'ai toujours pensé...
Tu pourrais avoir un excellent QI ici au Québec,
ouais,
mais d'aller au Japon ou d'aller dans un pays africain où les réalités sont totalement différentes,
ouais,
la culture est différente, la manière d'apprendre, la manière de communiquer est différente, et avoir un QI complètement pourri. Donc, il faut savoir que c'est la capacité d'adaptation dans un environnement scolaire donné.
Okay. Okay.
On s'entend que la plupart des pays occidentaux, on va avoir des références relativement similaires, mais tu pourrais avoir en fait des mesures différentes au Québec ou dans le reste du Canada, simplement parce que les techniques d'apprentissage ne sont pas toujours les mêmes. On travaille beaucoup plus par essai-erreur dans les provinces anglophones, alors qu'on travaille beaucoup plus par un enseignement explicite au Québec, ce qui amène d'autres... On performe mieux dans des concours internationaux, mais on perd en adaptabilité quand il faut adapter notre intelligence à des conditions particulières. Donc, on peut gagner de l'un ou de l'autre. Mais si je reviens sur le livre que Michel Desmurgeais avait écrit, dont j'ai parlé tantôt, qu'on appelle « La fabrique du crétin imbécile », le crétin digital, pardon, on se rend compte en fait que le QI dans la plupart des pays occidentaux est en train de diminuer. Et en fait, ce n'est pas que l'enfant est moins intelligent, c'est qu'il a moins de capacité de s'adapter au système scolaire dans lequel il fonctionne. Alors, il y a des choses qui sont dues à l'enfant parce qu'il est mis sur une tablette beaucoup trop tôt. Tu as un de mes collègues, Boris Cyrulnik, qui dit qu'on ne devrait pas toucher une tablette avant 6 ans. D'accord? Parce que sinon, ça fait un effet délétère sur le cerveau. On n'est pas dans l'IA, on est juste sur la tablette. Okay? Notamment les jeux, entre autres, qu'on peut retrouver à cet endroit-là. Okay? Donc, on va avoir en fait une diminution de la capacité en fait, du jeune de pouvoir arriver à s'adapter. L'autre chose aussi, c'est que tu as aussi, on est tenté, j'ai déjà été questionné, est-ce-tu bon d'utiliser des jeux pour calculer sur Internet, d'accord, avec un jeu et ainsi de suite. Il y a des sites qui sont là, qui proposent des choses gratuites, et puis après, on te propose d'acheter des logiciels pour faire des apprentissages particuliers. Le problème, c'est la gamification. Ça veut dire que chaque fois que toi, je te donne 10 calculs, d'accord, chaque fois que tu as un bon résultat, tu as un ding-dong, 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 tong 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 tong, tu te dis, waouh, tu as été extraordinaire, tu as réussi ton calcul. Essaye de faire ça en classe. Ton élève, d'accord, qui s'est habitué à utiliser une gamification pour lui dire qu'il faisait des bons résultats, le professeur ne sera jamais capable, s'il a 25 mousses dans sa classe, d'être aussi proactif que ça pour pouvoir encourager les apprentissages de ses élèves. Donc, ce sont des élèves qui ont de plus en plus de difficultés à se concentrer, de plus en plus de difficultés à fonctionner à l'intérieur de la classe parce qu'ils sont en demande, « Cher professeur, je t'aime beaucoup, mais viens t'occuper de moi. Je sais que j'ai 24 autres élèves autour de moi, mais c'est moi la personne la plus importante. Viens me gamifier. » D'accord? Donc, quelque part, ça fait en sorte qu'il y a comme une mécompréhension dans le rôle de l'enseignant. Il peut y avoir une mécompréhension dans les attentes de l'enfant parce qu'on utilise beaucoup trop le côté numérique. Et c'est ça qui fait en sorte que l'enfant va avoir de plus en plus de difficultés à fonctionner à l'intérieur de la classe. Alors, tu ramènes éventuellement les conflits à l'intérieur de la famille, tu ramènes les enjeux socio-économiques, tu ramènes les enjeux culturels, éventuellement, surtout si tu as changé de province ou changé de pays. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que nos jeunes aujourd'hui vont avoir plus de difficultés à réussir à l'école. Et si on ne tient pas compte, tu vois, c'est bien au-delà du numérique ce qu'on observe. Le numérique n'est qu'un des facteurs qui, ouais, peut à la fois faciliter et compliquer les choses.
L'intelligence artificielle dans les relations de couple, on est capable de créer des robots qui ressemblent à des hommes et des femmes. C'est à s'y méprendre. C'est pas encore parfait, mais c'est à s'y méprendre. À partir du moment où on met l'intelligence artificielle là-dessus, est-ce que ça va créer des problèmes entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'on va faire moins de bébés? Je lisais un article ce matin chez les jeunes de 18 à 30 ans. Semblerait qu'il y en a plusieurs. Je pense que c'est quasiment 50% qui ne font pas l'amour pendant un mois et ça ne semble pas leur déranger avec leur conjointe. C'est assez particulier. Ça, c'est inquiétant pour la suite des choses, là.
Mais en fait, je ne pense pas que l'IA va venir poser des problèmes plus que ce qu'il y en a déjà, ça va peut-être en fait donner une autre opportunité d'échapper à une relation de couple, parce que c'est facile de vivre tout seul, c'est compliqué de vivre avec un conjoint ou une conjointe, parce qu'il y a des compromis, surtout s'il y a des enfants. C'est pas juste une question de choisir qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est pas juste une question de vacances, c'est une question de... On a chacun notre particularité et on voit l'éducation de nos enfants, on voit la vie en tant que telle qui va être différente. Donc, cette confrontation-là fait en sorte qu'on apprivoise la gestion de conflits. Nos enfants, quand ils se disputent, que ce soit à l'école ou dans la famille, ils apprennent à réguler leurs conflits, ils apprennent à s'affirmer. Okay? Donc, si on échappe à tout ça et que j'ai un ami numérique, plutôt d'avoir un frère ou une sœur avec qui j'apprends à réguler mes conflits, d'accord, ben, veux pas, je vais être beaucoup plus handicapé pour être capable de pouvoir vivre en société. Okay? Si je règle toutes mes affaires avec mon téléphone en envoyant des textos, okay, ben, veux pas, comment est-ce que je rentre vraiment en relation avec quelqu'un? Et si l'IA me propose une personnalité numérique qui vient satisfaire mon semblant de besoin, qui vient répondre en fait à ma carence affective, mais c'est certain que je pourrais peut-être éventuellement aller vers ce genre de choses. Mais en même temps, tu vois, de nouveau, c'est un peu comme au début qu'on a parlé de ce sujet-là, on parlait de la voiture. Est-ce que j'utilise bien ma voiture ou je l'utilise mal? Je vis en pleine campagne, la voiture est un essentiel pour moi. Il n'y a pas de bus, il n'y a rien, je suis à 8 km du village. Mais ça fait en sorte que ben, je planifie d'aller chercher tout ce dont j'ai besoin pour que ma famille vit, parce que je n'ai pas un dépanneur à 200 mètres de chez moi.
Ouais.
OK? Donc, mais si je suis... Donc, ça m'oblige à développer d'autres aptitudes parce que je ne vais pas prendre ma voiture pour faire 8 km pour aller au magasin le plus proche. OK? Fois 2, on s'entend, ça en fait 16. Au prix de l'essence, je m'en abstiens. Mais c'était déjà comme ça auparavant. Donc, de nouveau, l'IA, ça va être la même chose, ou les outils numériques, ça va être la même chose. C'est de pouvoir arriver, OK, est-ce que cet outil-là me rend service ou elle me nuit en tant que tel. En même temps, si on a ces bidules-là qui existent, est-ce que quelque part, ça pourrait réduire la violence envers les femmes? Est-ce que, tu sais, en Belgique et aux Pays-Bas, la prostitution est autorisée. OK? Elle est légale. Si tu te promènes dans certaines villes d'Amsterdam, de Liège ou de Bruxelles, tu vas voir des vitrines dans lesquelles des dames offrent leur corps moyennant finance. Pourquoi est-ce que c'est maintenu dans ces pays-là? Je sais que dans les pays anglo-saxons, c'est moins accepté, ce genre de choses-là. Je suis d'origine belge, donc moi, j'ai pu observer ces différents éléments-là. Mais ce qu'ils ont remarqué, en fait, c'est que la violence envers la femme est moindre dans ces endroits-là. Elle est moindre également parce qu'elles sont à vue. Okay? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait voir en France, ce qu'on va voir autour du Grand Prix de Formule 1, c'est moins des esclaves sexuels qui vont être utilisés parce que c'est caché en tant que tel. Donc, si je reviens en fait à l'utilité d'un robot pour satisfaire les besoins d'une personne ou d'une autre, peut-être que ça va diminuer la violence. Mais ce qui ne remplacera pas, nous sommes des êtres qui sommes des relations. On se blesse en relation, on se reconstruit en relation, on a besoin de relations et on ne sera jamais capable, malgré toute la beauté que l'IA pourra nous proposer dans les 5, 10 ou 15 prochains siècles, on ne sera jamais capable de remplacer un être humain. Ça va être un outil qui sera là, un outil numérique, sur deux pattes probablement, mais ça ne remplacera jamais la relation entre deux personnes.
Ce soir, on parle des enjeux de l'intelligence artificielle sur les capacités cognitives. On est avec Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. Pour en savoir plus sur M. Monzé, c'est joelmonzé.com. Vous allez avoir accès à ses interventions, à des possibilités de conférences aussi, ses livres qui sont franchement intéressants. Donc, joelmonzé.com. On fait une très courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Avant même le podcast, il y avait Marceau, le soir. Du lundi au jeudi, 18h, Marceau parle avec du monde. Du monde quand même assez intéressant.
Oui, oui, bien sûr.
Des politiciens, des acteurs de l'actualité, des experts, des avocats, des musiciens, des professionnels. Et même des inconnus qui ont quelque chose à dire. Mais avant tout, des humains, des émotions, des histoires. Marceau, le soir, à Boulevard.
102-1. My friend's got a girlfriend, man, he hates that bitch.
Du 29 juillet au 2 août, ne manquez pas le Festival de Lévis présenté par Loto-Québec.
Avec Marshmello,
Sale Barbe,
Papa Roach,
JF Posé,
The Offspring
et plus. Depuis maintenant plus de 40 ans, le Festival est la destination pour la musique, la famille et les montgolfières. Et pour un temps limité, profitez du passeport adulte en pré-vente à seulement $80,99. Boulevard 102.1 et le Festival, fiers partenaires de vos sorties musicales.
Salut, c'est Marie-Lou. Cet été, la place où se retrouver au FEC, c'est à la station Chevrolet. Tu veux te rafraîchir, donner rendez-vous à ta gang et vivre le festival autrement? Passe nous voir. Sur place, karaoké à bord de l'Equinox EV, bar à eau et un espace pour recharger tes batteries.
Et dans notre zone concours, viens voir le nouveau Bolt 2027 et cours la chance de remporter des prix vraiment cool à tous les jours grâce au site des concessionnaires Chevrolet du Québec. La station Chevrolet, c'est en plein cœur du FEC. Votre point de rencontre pendant tout le festival.
Au Crackpot Café, laissez parler l'artiste en vous. Choisissez votre céramique, prenez vos pinceaux et créez une pièce unique et colorée dans une ambiance chaleureuse. Entre amis, en famille ou en amoureux, vivez une expérience créative au Crackpot Café. Réservez maintenant au crackpotcafé.com.
Telio Assurance, c'est aussi des assurances spécifiques pour les entreprises. Avec notre département PME et commercial qui travaille pour développer vos solutions d'affaires, qui couvre plusieurs secteurs d'activité et types d'entreprises, nous avons les meilleures solutions pour protéger vos biens et vos actifs. Nous proposons aussi une gamme de programmes spécialisés tels que cyber-risque, camionnage et programmes d'hébergement touristique et de tout genre pour la location court terme. Chez Telio, on se mêle de vos affaires. Visitez telioassure.com.
Lorsque vous achetez des meubles chez Wayfair, vous obtenez bien plus que des meubles. Vous aménagez votre maison pour y vivre des moments inoubliables. Visitez wayfair.ca dès aujourd'hui ou téléchargez l'appli Wayfair. Des meubles conçus pour tous les moments de la vie, c'est Wayfair. Wayfair. Chaque style, chaque maison.
Saviez-vous que la Mazda 3GX est en location à partir de seulement 78 $ par semaine? Oui, 78 $ par semaine, incluant la garantie à kilométrage illimité de série. Et saviez-vous que la Mazda 3 existe aussi en version turbo et avec traction intégrale à active? Faites vite, c'est l'événement Découvrez Mazda. Location 48 mois, 20 000 km par année à compte de 2 500 $, valeur au détail de 25 815 $. Les conditions s'appliquent, l'offre prend fin le 31 juillet. Visitez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
Envie de décrocher cet été? À seulement une heure des ponts, les Z-Chemins vous attendent. C'est le paradis du plein air, que ce soit pour une descente à vélo de montagne, une partie de golf entre amis ou une sortie relaxante en paddleboard sur le lac. Ou laissez-vous tenter par les délices de la région. Entre deux arrêts agro-touristiques, savourez une crème glacée aux petits fruits locaux et découvrez nos micro-brasseries et nos fermes maraîchères. Dormez sur place dans nos hébergements en pleine nature. Les Z-Chemins, gourmands, actifs et surprenants. Planifiez votre escapade sur tourisme-etchemin.qc.ca.
On est avec Michel de Céramique L'Entrepôt. Michel, ça fait presque 30 ans que tout le monde parle de Céramique L'Entrepôt comme étant la meilleure place pour les planchers. C'est quoi votre secret?
Il y en a deux, Martin. Le choix et le prix.
Le prix?
Ici, vous trouvez toujours de la céramique et du vinyle click à 1,99 $ le pied carré et du flottant à partir de 99 sous le pied carré.
Toujours des produits tendance?
Toujours.
Toujours disponible sur le champ?
Oui, monsieur.
Alors, pour le plus grand choix, la qualité et les bas prix. Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, en face de l'entrepôt du hockey.
La légende disait qu'on préparait son retour, qu'il reviendrait en grand, encore plus.
Excusez, le Jeep Cherokee est vraiment de retour. Mmh. En version hybride.
Hybride, c'est historique.
Avec une autonomie
mythique
de 800 km et une consommation réduite
impressionnante.
Et un 4x4 de série.
Le tout nouveau Jeep Cherokee hybride 4x4 2026.
Ce n'est pas une légende urbaine, mais bien
le retour d'une légende.
À partir de seulement 42 390 $. Venez en faire l'essai
chez votre concessionnaire Jeep.
Tous les détails sur Jeep.ca.
À Saint-Raymond, explorez les paysages grandioses de la vallée Bras-du-Nord. Après une magnifique journée de randonnée, faites escale au Roquemont, restaurant, microbrasserie et hôtel. L'endroit parfait pour manger, relaxer et séjourner. Vallebrasdunord.com.
Pump it, pump it, pump, pump it avec Sanivac. Pump it, pump it, pump, pump it avec Sanivac. Sur ton chantier, dans ta cour, dans ton garage, quand ça bloque, Sanivac débarque. Hey, hey. Tes toilettes, pump it, hey. Tes égouts, pump it, drain de garage, pump it, trappe à graisse, pump it avec Sanivac. Sanivac, toilettes portatives, hey. Roulotte sanitaire, hydroexcavation, tout ça avec Sanivac. Sanivac, on pompe tout, on nettoie tout, on livre partout. Pump it, un seul appel, on s'occupe du reste. Avec Sanivac, Sanivac, pompé.
Quelle famille a envie d'une bonne crème glacée? Profitez de la promotion familiale La Twist chez Fromagerie Victoria. Deux petits cornets trempés et deux mini crèmes glacées molles pour seulement 12 $. Et n'oubliez pas votre fromage en grains pour le souper. Fromagerie Victoria, familiale depuis 75 ans.
Approche, Pierre-Luc Funk. Je vois une relation solide devant toi. La paix pour les 3 à 4 prochaines années.
Ah, parlez-vous de mon Volkswagen?
Est-ce que ton Volkswagen vient avec 3 ans d'entretien inclus puis 4 ans de garantie?
Oui.
Ben, c'est de ça que je parle.
Gardez l'esprit tranquille. Obtenez 3 ans d'entretien planifié inclus sur tout nouveau Taos, Tiguan, Atlas ou Crossport 2026. Et 4 ans de garantie limitée sur tous nos modèles. Découvrez nos offres au VW.ca. Des conditions s'appliquent.
Pouvez-vous juste regarder dans votre boule si mes portes sont barrées? Je suis pas sûr.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Joël Monzé est avec nous ce soir. Joël Monzé est docteur en neurosciences. On parlait dans le premier bloc du podcast de mars au soir des enjeux de l'intelligence artificielle sur les capacités cognitives. Et j'avais fait une demande spéciale à Joël. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Je pense que tantôt, en début d'émission, on parlait des radiologues. C'est bien ça?
Mais en fait, c'est que les radiologues vont probablement pas disparaître. Le tout, c'est de pouvoir arriver en fait à maintenir une acuité visuelle suffisante pour repérer en fait la présence d'une tumeur ou d'une problématique quelconque.
À quoi serviraient les radiologues, Joël, si on peut utiliser l'intelligence artificielle pour détecter à 100% toutes les tâches?
Mais malheureusement, l'IA ne le fait pas à 100%.
Mais ça va venir ça. Là.
Je ne crois pas que... Non, parce que le jugement clinique... C'est une grave erreur pour moi du Collège des médecins depuis quelques années. C'est de vouloir rendre les médecins comme des techniciens et pas des gens qui sont doués d'un jugement clinique. C'est-à-dire que quand le problème est linéaire, c'est facile. Et c'est certain que l'IA va pouvoir être là. Plutôt d'avoir... autour de Montréal, on avait avant l'usine de Boisbriand, l'usine GM, où tu avais un paquet de gens qui passaient de père en fils et qui serraient des boulons pour pouvoir faire des voitures à la chaîne. Ce genre de métier va probablement disparaître, et heureusement, parce que c'est abrutissant. Il n'y a personne qui se réalise là-dedans, d'accord? Bon, ils avaient des bons salaires qui leur permettaient de compenser les choses le week-end, d'accord? Mais il n'y a personne qui va être heureux de faire un métier à la chaîne comme on peut le faire à certains moments. La même chose peut-être pour la fabrique de certains vêtements. Le fait de le faire à la chaîne avec des robots va probablement simplifier un paquet de choses. Mais si je reviens à la médecine, c'est que dès qu'on est face à une problématique complexe, et la santé mentale, par exemple, c'est une problématique complexe. Souviens-toi, on avait fait une entrevue il y a quelques mois avec Anne-Isabelle Dionne, tu nous avais posé des questions. On venait de sortir deux articles où on avait identifié 52 causes différentes derrière les symptômes de TDAH. Donc, si j'utilise l'IA, et parce que j'ai les symptômes qui ressemblent en fait au Connors ou au CADRA, qui sont les deux tests les plus souvent utilisés, je diagnostique qu'il y a un TDAH et je prescris un médicament dont j'agis de manière technique, je n'ai pas besoin de médecin parce que c'est technique. Mais ça, c'est un élément. Il y a 51 autres éléments et le médecin doit aller fouiller là-dedans. Tu sais, ça va même jusqu'à dire que la plupart des parents qui dépensent beaucoup d'argent dans les tests neuropsychologiques aujourd'hui pour mesurer si l'enfant a ou n'a pas, éventuellement rencontre pas les critères du TDAH ou d'autres maladies, mais ce sont des tests qui n'ont pas de valeur scientifique et clinique parce qu'ils ne regardent qu'un seul et unique élément. Okay. Donc, l'IA va faire les choses mieux qu'un neuropsychologue dans pas longtemps. Donc, quelque part, le jugement clinique, c'est d'aller observer l'ensemble des choses. On parlait tantôt de l'électricien. Je peux avoir des schémas électriques, des connaissances de base comme électricien. Je peux avoir un guideline qui m'est donné par la RBQ, la Régie du bâtiment du Québec. Mais sur le terrain, comment est-ce que la maison est construite? À quel endroit je fais passer mon fil? Jusqu'où est-ce que je peux aller? Alors oui, j'ai en fait un schéma électrique dans ma tête, mais elle est où la boîte électrique? Elle est où par rapport à la présence éventuellement de l'eau ou du gaz? D'accord? Donc je vais devoir m'adapter. Et ça, l'IA ne sera pas capable de pouvoir aller jusque-là parce qu'il y aura toujours une série de petites choses. Et même si l'IA est capable de répondre à 95% des difficultés, le 5% du jugement de l'individu ne changera pas. C'est pour ça qu'on peut utiliser l'IA, mais notre jugement clinique ou notre jugement professionnel doit être valorisé. Mais ça va nous demander d'aller à l'inverse de ce que l'administration publique, comme un collège de médecins, nous demande. D'accord? Ça veut dire que je dois commencer à réfléchir plutôt que de passer mon temps à regarder un certain nombre de symptômes et prescrire un médicament. Mais ça va être la même chose pour un professeur. Le professeur, qu'est-ce qu'il va faire en classe? Il peut utiliser d'excellents logiciels d'apprentissage. Ce que le logiciel d'apprentissage n'arrivera jamais à faire, c'est créer un lien de cœur à cœur avec ses élèves. C'est d'aider un élève qui est en difficulté, de l'accompagner dans une connexion empathique pour que l'élève arrive à s'apaiser, se sentir en sécurité, puis offre le meilleur de lui-même pour pouvoir être capable de faire ses apprentissages. Donc la relation humaine, même si l'IA voudrait le remplacer, elle ne le remplacera pas parce que ça reste numérique. Donc ça veut dire que là, on de nouveau, le jugement humain, notre capacité de réfléchir, notre capacité d'entrer en relation avec autrui va probablement être beaucoup plus maximisée dans les 5, 10, 15 prochaines années. Sinon, certaines professions vont devenir moins utiles.
OK. Ben, t'es plus rassurant que je pensais concernant l'intelligence artificielle puis les métiers, parce que moi, j'avais en tête justement les fameux radiologues. À partir du moment où la machine ne se trompe pas, je me dis, OK, tassons les radiologues de côté, mais je comprends que le jugement clinique est encore extrêmement important là-dedans. Fait que t'es très rassurant, Joël.
Ben, tant mieux, tant mieux.
Joël Monzé, mais... on peut... Oui, qu'est-ce que t'allais dire pour compléter?
Mais tu sais, je reviens à ce qu'on avait dit tantôt, c'est comme l'auto. L'auto, je peux bien l'utiliser ou je peux en faire un...